Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Et donc nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une analyse critique des idées de Francis Cousin et nous sommes avec Benoît d'Alternative Libertaire. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors on a décidé de faire cette émission avec Benoît qui est un habitué parce que on pense que Francis Cousin s'est imposé sur Internet comme soi-disant un penseur radical, marxien, debordien et finalement avec un discours qui a l'air d'être relativement proche de celui qui est tenu notamment dans Sortir du capitalisme. On voudrait donc, dans le cadre de cette émission, vérifier si vraiment les idées de Francis Cousin sont si proches de celles de Sortir du capitalisme. Et pour cette analyse critique des idées de Francis Cousin, on s'est basé sur une lecture exhaustive de ses livres, donc Lettres contre l'avoir, Critique de la société de l'indistinction et Commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers. Et on s'est également basé sur le visionnage d'un certain nombre de vidéos de Francis Cousin. Alors peut-être que rapidement, on peut commencer par présenter le parcours de l'auteur. Alors simplement pour dire que Francis Cousin est quelqu'un d'assez étrange. Dans une interview donnée à une radio d'extrême droite, il dit que faisait partie globalement de l'ultra-gauche parisienne dans les années 70-80. Et quelque chose de révélateur et qui montre un petit peu son ambiguïté politique, c'est qu'il raconte qu'il allait discuter avec des gens du GUD, donc qui est globalement une espèce de milice paramilitaire fasciste, tout en vendant le Monde Libertaire. Donc on voit un petit peu l'ambiguïté du personnage et de son parcours, mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est que c'est pas quelqu'un qui vient de l'extrême droite et qui tenterait de récupérer des idées d'extrême gauche, comme c'est le cas d'Alain Soral ou un autre niveau d'Alain de Benoist. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui semble venir de l'extrême-gauche et même d'une certaine extrême-gauche qui est relativement proche de Sortir du capitalisme, c'est-à-dire globalement l'ultra-gauche, même si évidemment il y a des critiques à formuler à l'ultra-gauche.
Oui, effectivement, c'est une forme de contradiction assez constante qu'il y a chez Francis Cousin. Un discours qui se réfère sans arrêt à Marx, à Debord, un petit peu à Hegel aussi, mais à une tradition vraiment anticapitaliste. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui va pouvoir intervenir sur Égalité et Réconciliation TV, sur des médias d'extrême droite. C'est quelqu'un qui va aussi appeler, par exemple, à voter Marine Le Pen en 2012, qui va aussi être complimenté par Marine Le Pen dans un de ses livres en 2012, dit que c'est lui la vraie extrême-gauche contre le NPA et Mélenchon. Donc c'est quelqu'un qui, du point de vue des réseaux, est beaucoup plus proche de l'extrême-droite que de l'extrême-gauche. Et à l'extrême-gauche, c'est quelqu'un qui est extrêmement critiqué. C'est-à-dire qu'il y a très peu de communistes libertaires qui vont se référer à Francis Cousin. Très souvent, ceux qui vont se référer à Francis Cousin, c'est soit des rouges-bruns, soit carrément des gens d'extrême-droite. Il est aussi relayé régulièrement par Radio Courtoisie. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut poser. Et effectivement, ce qui pose problème, c'est que ces références sont des références très souvent ouvriéristes, marxienne, etc. Et donc il faut réfléchir à tout ça. Donc quelqu'un par exemple qui va se référer fréquemment aux expériences de communes, donc la commune de Paris, la commune de Kronstadt, le 68 ouvrier aussi, les communes espagnoles de 36-37, la commune de Hongrie de 56. Donc du coup c'est quelqu'un qui se réfère beaucoup à l'expérience communale et on va voir en quoi il va pouvoir d'une certaine manière amener ce thème communaliste dans une direction en fait fait qui peut être raciste, patriarcal, qui peut être en fait rattaché à des thèmes sociaux d'extrême droite. Et une de ses grandes références aussi, ça va être la Première Internationale, mais il faut voir aussi comment il entraîne ce thème vers des thèmes d'extrême droite. Donc du coup, c'est ça qui va nous intéresser. On va d'abord réfléchir un petit peu à son cadre théorique, et ensuite on verra en quoi il s'éloigne totalement de la pensée émancipatrice.
Oui, alors peut-être pour faire une première réaction par rapport aux références historiques de Francis Cousin, donc c'est effectivement les références classiques de l'ultra-gauche, c'est-à-dire toutes les situations où la classe ouvrière, agissant en dehors des partis et des syndicats, donc on retrouve la critique d'ultra-gauche des partis et des syndicats chez Francis Cousin, comme étant finalement des alliés du capital, ou disposés à la collaboration de classe, ou pour les syndicats, simplement des négociateurs de la force de travail. Donc, effectivement, des critiques qui ont été développées dans cette émission, notamment avec Sylvain de Zone Subversive. On voit quand même que, finalement, il se réapproprie ces références, effectivement, dans un cadre d'ultra-gauche, d'une part, mais d'autre part, ce qu'on peut signaler, c'est qu'il se réfère à ces expériences parce qu'elles sont européennes et parce qu'elles seraient le fait de la classe ouvrière blanche masculine, qui est vraiment l'objet dans ses livres et dans ses vidéos, véritable fétichisation, c'est-à-dire qui est posée comme un sujet intrinsèquement révolutionnaire, alors que, effectivement, cette classe ouvrière blanche masculine européenne a été effectivement par moments révolutionnaire, mais force est de constater que la majorité du temps, elle ne l'a pas été, qu'elle a été disposée aussi à des compromis de classe, qu'elle a cherché, de manière très compréhensive, simplement à améliorer ses conditions de vie, etc. Et que ces moments révolutionnaires sont des moments bien particuliers, dans une conjoncture particulière. Et donc finalement, on peut, je pense, critiquer Francis Cousin pour avoir procédé, comme l'ultra-gauche, je pense, à une fétichisation de la classe ouvrière blanche masculine, comme une classe intrinsèquement révolutionnaire, alors qu'en réalité, comme le disent de manière très différente d'ailleurs la critique de la valeur et la communisation, la classe ouvrière n'est pas une classe intrinsèquement révolutionnaire, c'est une classe du capital. Alors évidemment, dans la communisation et la critique de l'art, ça porte à des considérations différentes, mais enfin, on peut critiquer ça. Et surtout, ce qu'on peut critiquer, c'est que lorsqu'il se réfère, par exemple, au mai 68 ouvrier, en réalité, il oublie que, et ça, je pense que ça démolit une partie de son argumentation sur le fait qu'il n'y aurait que la classe ouvrière blanche, masculine, européenne, qui serait radicale. Une partie du mai 68 ouvrier a aussi été portée par des travailleurs immigrés, notamment d'origine algérienne, qui ont été, comme l'a montré par exemple Xavier Vignat, aux avant-postes de la lutte de mai 68. Et d'ailleurs, dans les années 70, le pouvoir gaulliste considérait que les travailleurs immigrés était peut-être le plus grand danger pour la bourgeoisie française. Donc on voit que ça casse quand même le récit de Francis Cousin, comme quoi finalement la classe ouvrière immigrée extra-européenne serait un agent de stabilisation contre-révolutionnaire du capital. Or en réalité, si on prend sa référence même du mai 68 ouvrier, il n'en est rien, et au contraire, cette classe ouvrière immigrée a été par moments aussi un ferment révolutionnaire qui a fait trembler la bourgeoisie et le pouvoir politique en France, notamment dans les années 68. Alors peut-être qu'il faut revenir sur une deuxième similarité de la pensée de Francis Cousin avec Sortir du capitalisme. Donc la première, c'était ces références classiques de l'ultra-gauche. Et la deuxième, c'est le fait qu'il affirme qu'il faut abolir les catégories de base du capitalisme, les rapports, les structures de base du capitalisme, c'est-à-dire le travail marchandise, l'argent, le capital, la marchandise et l'État. Donc on voit que là, effectivement, ça différencie d'une très grande partie de l'extrême-gauche, tout d'abord. Donc, il fait quand même plus partie, là-dessus, on a l'impression, en tout cas, de l'extrême-gauche la plus radicale. Donc, anti-autoritaire, puisqu'il est pour l'abolition de l'État. En apparence, anti-autoritaire. Hein. On verra que c'est, en fait, beaucoup plus compliqué que ça. Au moins, anti-étatiste, disons. Et en même temps, anticapitaliste radical, c'est-à-dire que il est pour l'abolition vraiment du capitalisme et pas simplement pour l'abolition de la finance ou l'abolition de certaines structures du capitalisme, ce qui différencie effectivement Francis Cousin d'une grande partie de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Et en même temps, comme on verra, sa critique du capitalisme, elle est largement incomplète. Bon, déjà parce qu'il se base sur un sujet soi-disant révolutionnaire intrinsèquement, ce dont on vient de parler, mais aussi parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'éléments de base du capitalisme qui ne sont pas critiqués, notamment le processus de racialisation, le colonialisme, etc., qui font partie de la dynamique du capitalisme, qui font pas l'objet tellement de sa critique, alors qu'ils peuvent faire la critique lorsqu'il s'agit pour les Américains d'aller bombarder les Serbes, puisque effectivement là, c'est des Européens, mais par contre, l'impérialisme, l'expansion coloniale du capitalisme au 19e siècle, qui a été un élément central du développement du capitalisme, fait pas vraiment l'objet de développement, donc d'une certaine manière, ça reste quand même un anticapitalisme tronqué, non pas parce qu'il n'aurait pas vu que les structures fondamentales du capitalisme, c'est le travail, la marchandise, la valeur, l'argent, le capital, comme c'est le cas d'une grande partie de l'extrême droite et de l'extrême gauche, mais en fait plutôt parce qu'il cherche finalement à insérer, ça je pense que c'est un élément central, à insérer cette critique radicale du capitalisme dans un cadre qui est un cadre fondamentalement d'extrême droite, identitaire, avec l'idée d'un peuple européen, avec des racines germaniques, païennes, chrétiennes, etc. Donc d'une certaine manière, Francis Cousin prend dans l'ultra-gauche ce qui est compatible avec des idées d'extrême droite, comme on va le montrer tout au long de cette émission. Et ce qu'on peut dire aussi, et c'est aussi quelque chose que tu m'as fait remarquer, Benoît, c'est que en réalité, en fait, il fait pas vraiment une critique complètement radicale, disons, des catégories de base du capitalisme, puisqu'il transhistoricise ces catégories qu'il va projeter sur l'ensemble des époques qui précèdent le capitalisme, alors disons, après les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que pour lui, la valeur, la marchandise, le travail, ça existe déjà en Mésopotamie, etc. Et donc, ce qui fait que du coup, il dissout un peu la spécificité du capitalisme et la spécificité, notamment, du travail comme catégorie capitaliste, c'est-à-dire, très concrètement, la dépendance généralisée au travail marchandise, qui est effectivement quelque chose de très récent, qui date seulement d'il y a 2 siècles, et le fait que la société soit structurée autour de l'argent, de la valeur, du marché, une dynamique d'accumulation du capital, d'une concurrence généralisée, d'une dépendance généralisée au marché et au salariat, c'est quelque chose qui est extrêmement récent et que lui va projeter sur un certain nombre d'époques. Et peut-être que d'ailleurs, sur sa critique du travail, il faudrait dire que finalement, sa critique du travail concerne principalement ce que Marx a appelé donc le travail abstrait, et qu'en réalité, il oppose d'une certaine manière à un travail concret qui lui serait positif et transhistorique.
Oui, tout à fait, et même il n'entre pas trop dans ses considérations, il parle rarement du travail abstrait si ce n'est jamais, et surtout ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il a une approche très téléologique, très finaliste, en pensant que presque dès les premiers échanges marchands dans les sociétés prémodernes seraient déjà inscrit Wall Street, serait déjà annoncé les échanges les plus complexes dans la société capitaliste. Donc il y a une rétroprojection des catégories de base du capitalisme sur des sociétés prémodernes qui est anachronique chez Francis Cousin et qui relève aussi d'une démarche totalement téléologique qui ne permet plus de cerner la spécificité du capitalisme. Et ça peut servir en dernière analyse son primitivisme et sa forme de sacralisation de sociétés de chasseurs-cueilleurs par exemple qui elle aurait été préservée parce que précisément dans ces sociétés ne serait pas inscrite la valeur d'échange. Donc du coup, au niveau de cette démarche même historique, il y a quelque chose qui n'est pas rigoureux. Donc du coup, il faudra aussi s'attacher à penser ce primitivisme et voir en quoi, au final, permet de valoriser une forme de tradition primordiale qui justifie ensuite, pourquoi pas, une pensée par exemple patriarcale. Donc ça, c'est important de le dire.
Oui, justement, ce qu'on voit notamment dans les vidéos de Francis Cousin, c'est un primitivisme, alors que lui, il qualifie de pagano-chrétien d'une certaine manière. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, que c'est typique en fait de la pensée Volkisch, qui est, disons, un peu l'ancêtre de la pensée nationale-socialiste en Allemagne. C'est-à-dire cette idée qu'on peut déjà mélanger les apports du paganisme et du christianisme primitif, donc pour éviter de se fâcher entre chrétiens et néo-païens.
Il valorise beaucoup le christianisme primitif qui serait un petit peu la réaffirmation de cette unité qu'il qualifie de sacrale entre l'homme et le cosmos. C'est comme ça qu'il s'exprime. Et du coup, le christianisme serait la réaffirmation de cette forme d'éros émancipée, et donc la réaffirmation des origines, en fait, des origines ou d'avant le néolithique, des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et la valeur d'échange, elle aurait perverti tout ça. Donc finalement, c'est pour ça qu'il y a ce mélange un peu chez Francis Cousin. Bon, on en rediscutera tout à l'heure, mais en tout cas, c'est complètement lié.
Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que Francis Cousin récupère une grande partie des idées du mouvement Volkisch. On a consacré une émission là-dessus sur les racines historiques du national-socialisme. socialisme. La pensée Volkisch, c'est voilà, une pensée justement qui va mettre en avant l'idée que les ancêtres germains, voilà, qui sont complètement fétichisés comme chez Francis Cousin, hein. Sa référence, c'est vraiment les peuples germaniques, comme dans la pensée national-socialiste et dans l'idéologie Volkisch, et voilà, qui soi-disant seraient en unité voilà, avec le cosmos et la nature, etc., etc. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il invoque ce primitivisme païen chrétien germanique? Alors, premièrement, on pourrait se dire naïvement, mais c'est parce que c'est un exemple d'une société, effectivement, où il n'y a pas les catégories de base du capitalisme. Sauf qu'il y en a d'autres. Pourquoi celle-là? Toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs à travers le monde, et pas seulement les sociétés germaniques, ont eu, avant la révolution néolithique, effectivement, des structures de base qui ne comportaient pas les catégories de base du capitalisme, ou disons ce que Francis Cousin pense comme étant des catégories de base du capitalisme, puisqu'il les projette abusivement à des périodes lointaines. Mais disons, des sociétés sans monnaie, sans propriété privée, sans État, etc. Bon, il en a existé à travers le monde. En fait, c'est pour une raison simple. C'est parce que, évidemment, Francis Cousin ne veut pas exhorter le communisme primitif de tous les espaces dans le monde, mais simplement le communisme primitif européen, germanique en l'occurrence, ce qui est en fait parfaitement compatible avec une vision d'extrême droite, Volkisch en l'occurrence, du monde. Et d'ailleurs, on voit que ce qu'il aime bien finalement dans le communisme primitif germanique, c'est son côté communautaire. C'est-à-dire où il y a une distinction radicale entre ceux qui font partie de la communauté par le sang et le sol, thème très Volkisch, même si lui, il l'affirme pas comme ça, mais c'est comme ça que les sociétés germaniques fonctionnaient. Voilà une thématique extrêmement identitaire et xénophobe. Et donc finalement, c'est ce qu'il aime bien justement dans ce primitivisme germanique. Et puis d'autre part, il aime bien le côté patriarcal de ces communautés, puisque évidemment, les sociétés germaniques sont des sociétés extrêmement patriarcale, malgré ce qu'il en dit, où effectivement, il y a des prêtresses, mais enfin, globalement, de ce qu'on en sait, c'est clairement pas des sociétés égalitaires au niveau des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, on pourrait rajouter que c'est des sociétés qui ont connu, certes pas de manière centrale, mais des formes d'esclavagisme. Y voir une forme d'émancipation, alors que ce sont voilà, des communautés relativement fermées, donc xénophobes, patriarcales, et en plus esclavagistes dans une certaine mesure, on voit bien où veut en venir Francis Cousin. Encore une fois, c'est finalement d'affirmer contre le capitalisme un projet d'extrême droite qui rappelle l'idéologie Volkisch. Parce que l'idéologie Volkisch aussi était contre la modernité, aussi était contre le capitalisme. Donc finalement, là-dessus, Francis Cousin, qui veut se faire passer pour un penseur ni de gauche ni de droite, en fait, dit à peu près la même chose que certains idéologues Volkisch de la fin du 19e siècle, pensée Volkisch qui constitue un peu le terreau idéologique du national-socialisme.
Oui, et outre cet aspect pagano-chrétien ou et primitiviste, il y a aussi une autre référence, cette fois aux Grecs, qui est vraiment très proche de ce que Heidegger a pu dire. Donc, une forme de référence assez constante à Héraclite et Parménide, les pré-socratiques, qui auraient du coup dévoilé l'être en tant qu'être, qui auraient eu un accès à cette unité primordiale qu'il essaye de penser. Et la décadence, elle commencerait justement avec Socrate. Elle commencerait avec Platon et Aristote. L'oubli de l'être commencerait, voilà, avec la cité grecque. Donc du coup, ça c'est un thème vraiment très heideggerien, et l'être contre l'avoir, il se réfère explicitement à Marx et à Hegel, mais il a un fond heideggerien implicite, et cette référence aux Grecs aussi, elle a pu servir le mouvement Volkisch, surtout au pré-socratique. Antérieurement, on a vu que c'était aussi présent chez Nietzsche, dans La naissance de la tragédie, on voit chez Nietzsche que forme de décadence commence avec Socrate, et Nietzsche aussi va se référer au pré-socratique très positivement. Nietzsche a pu aussi nourrir ses courants national-socialistes. Donc du coup, on voit que des références aussi allemandes, mais du côté de penseurs très idéalistes, et du côté de Heidegger nationaliste, voire pire, et antisémite, sont présentes chez Francis Cousin. Donc du coup, cette référence, elle est latente. Alors certes, Francis Cousin, il va critiquer Heidegger dans un paragraphe sur l'être contre l'avoir, en lui reprochant son appartenance universitaire, mais en même temps, il lui emprunte beaucoup de ses thèmes, et finalement la démarche de Francis Cousin, elle est beaucoup plus heideggerienne que marxienne ou debordienne, ou en tout cas il y a une espèce de mélange un petit peu confus entre tous ces thèmes, et voilà, et ça nourrit encore plus cette pensée Volkisch, et tout est là quoi, tous les thèmes Volkisch sont là finalement, même la référence au pré-socratique. Donc du coup voilà, c'est important de le rappeler. Et concernant Heidegger, il y a aussi tout ce jargon de l'authenticité et de la vraie vie qui est repris par Francis Cousin, donc qui est lié à l'idée d'un enracinement, l'idée donc que la marchandise, elle déracine, mais cet enracinement, déjà chez Heidegger, il signifie une pensée radicalement nationaliste, mais aussi antisémite, parce qu'on va assigner les Juifs justement au déracinement, à un peuple nomade, etc. Donc du coup, pensée nationaliste et pensée antisémite heideggerienne se trouvent déjà dans une forme de jargon de l'enracinement, de l'authenticité, de la vraie vie. Jargon que va reprendre beaucoup Francis Cousin. Donc du coup, moi, ce qui m'a intéressé de voir aussi, c'est de voir que chez Francis Cousin, il y avait cette espèce de mélange entre ces thèmes heideggeriens et aussi le thème debordien de la vraie vie. Donc il y a un mélange entre Debord et Heidegger qui existe déjà. Il a déjà été produit par le Comité Invisible, par quelqu'un comme Zach Dansky. Il a déjà été produit par des gens qui sont plutôt qualifiés de gauche, mais c'est un mélange qui a aussi ses dangers, surtout quand il peut nourrir une pensée nationaliste et qui va complètement faire en sorte que Debord sera compris de façon idéaliste et nationaliste, quoi.
Oui, surtout que cette pensée identitaire, c'est une pensée intrinsèquement contre-révolutionnaire, puisque précisément font partie de la nation française ou des Européens ou des Indo-Européens, peu importe, aussi bien des capitalistes que des prolétaires. Donc finalement, Francis Cousin, en faisant une référence identitaire permanente, déjà, il limite le spectre de la classe ouvrière, parce que ça veut dire que les immigrés, les racisés, les femmes n'en font pas partie. Donc ce qui divise la classe ouvrière, en réalité, ce qui fait finalement le jeu du capitalisme, en fait, puisque le capitalisme n'aime rien tant qu'une classe ouvrière divisée par le racisme et par le patriarcat. Donc d'une part, sa pensée identitaire, elle fait obstacle à, disons, une certaine unification, disons, des classes populaires contre le capitalisme. Et puis, d'autre part, on voit pas trop comment est-ce qu'on pourrait dépasser le capitalisme sur la base d'une identité qui n'est pas, disons, intrinsèquement en opposition avec le capitalisme, puisque aujourd'hui, plus personne n'est un germain pagano-chrétien. Ce qu'on a, c'est des classes, des genres, des groupes racisés. Et donc, avec cette pensée identitaire, on voit pas trop ce qu'on peut faire d'émancipateur. Et d'autre part, comme tu l'as souligné, toute cette thématique obsessionnelle chez Cousin de l'être, de l'oubli de l'être, avec la relecture qu'on a faite récemment de Heidegger, on y a consacré quelques notes de lecture, on peut se dire que c'est quand même un thème qui est intrinsèquement antisémite, et même qui, d'une certaine manière, justifie l'extermination des juifs, puisque chez Heidegger, l'être, comme on l'a vu notamment dans les Cahiers noirs, c'est quelque chose qui a été développé par Peter Traunig, et pourtant un heideggerien, l'être se réfère concrètement aux Allemands, aux Aryens, entre guillemets, alors que les étangs se réfèrent aux juifs, et finalement, dans cette affirmation de l'être, il y a une affirmation en fait raciste et antisémite qui, chez Heidegger, a justifié en partie l'extermination des juifs. Donc finalement, cette pensée identitaire et cette pensée de l'être, c'est une pensée, voilà, intrinsèquement réactionnaire et contre-révolutionnaire, et qui, aujourd'hui comme hier, n'est clairement pas émancipatrice. Après, ce qu'on peut finir de dire, c'est que finalement, son usage de Debord et de Marx, évidemment, il est partiel, et il est partial, puisqu'il va reprendre chez Marx et Debord tout ce qui va dans le sens d'un projet identitaire, raciste, patriarcal. Effectivement, il va pas inventer les citations de Marx et de Debord qu'il utilise. Il y a effectivement des choses problématiques chez Marx et Debord, mais il va prendre, disons, tout ce qui, chez Marx et Debord, font qu'ils s'inscrivent dans la société dominante, c'est-à-dire une société patriarcale, raciste, classiste, même avec un certain mépris de classe, pour le lumpen prolétariat chez Marx et Engels. Et finalement, il va prendre tous ces éléments les plus réactionnaires chez Marx et Debord pour les faire coller à son projet. Et il ne va pas, par exemple, aller chercher chez Marx une conscience, voilà, qui va s'affirmer au cours de sa vie, que il faut prendre en compte les peuples colonisés dans l'optique d'une émancipation du capitalisme. Ça, c'est quelque chose qui est complètement absent chez Cousin et qui pourtant existe chez Marx, comme l'a montré par exemple Anderson dans son livre Marx aux Antipodes.
Non, mais surtout, ce qui va faire qu'il va pouvoir orienter Marx et Debord dans une direction réactionnaire, c'est justement le fait de mélanger ce jargon de l'authenticité, de la vraie vie et tout, très Heideggerien justement, à d'autres thèmes qui sont présents aussi chez Marx et Debord, mais qui ne signifient pas la même chose dans leur contexte. Donc à la notion de vraie vie chez Debord, par exemple, et à la notion d'essence générique chez le jeune Marx, par exemple. Voilà, il y a un jeune Marx aussi qui est naturaliste et humaniste. Il va un peu s'engouffrer dans cette brèche en utilisant cette idée d'un Marx naturaliste pour, justement, développer à fond ce jargon de l'authenticité et de l'enracinement. Chez Marx, on ne peut pas dire non plus que ce soit induit immédiatement. Il n'y a pas, chez Marx, la présence d'une pensée de l'enracinement sur un sol national, par exemple, ou sur un sol européen. Il y a aussi un Marx qui a pensé le fait colonial, de façon certes complexe, hein, y a des livres qui ont été écrits à ce sujet, mais en tout cas, on ne peut pas dire que Cousin fasse preuve d'une lecture vraiment fidèle, même de Marx et de Bord, dans la mesure où ils produisent justement ce mélange entre des pensées idéalistes, Heideggerienne par exemple, ou Nietzschéenne encore, et des pensées matérialistes comme celles de Marx et de Debord. Donc il faut voir aussi que lui produit cette confusion et que ça explique aussi comment il va pouvoir orienter des thèmes anticapitalistes et a priori émancipateurs vers plutôt des thèmes d'extrême droite, nationalistes, racistes et patriarcaux. Et ensuite, il y a une autre référence importante chez Francis Cousin, ça va être Hegel. Et là, il va utiliser un peu la dialectique hegelienne de façon très schématique, en faisant vraiment une histoire très schématisée. Et cette idée que la dialectique, elle se déploie justement en trois temps, une forme d'unité primordiale dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, donc qui serait dans une union avec le cosmos et dans un éros justement complètement vécu en première personne et fantasmé aussi, bien sûr. Ensuite, l'antithèse, ce serait l'apparition de la valeur d'échange et donc l'apparition de la division, de la multiplicité, etc., qui va scinder les hommes, qui va les éloigner de leur propre essence. Et la synthèse, ce serait justement l'auto-abolition du capitalisme et surtout de ce qu'il appelle le prolétariat européen, qui permettrait un retour à cette unité primordiale, mais qui maintenant serait universelle. Donc d'une certaine manière, avec Cousin, on peut aussi dire que le capitalisme, ce serait une étape nécessaire pour atteindre cette unité primordiale, mais dans un cadre universel. Donc c'est vraiment très téléologique. C'est très schématique, c'est une dialectique qui est totalement idéaliste et qui va emprunter à Hegel cet aspect de Aufhebung. Donc voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel de ces références. De façon très assumée, ça va être Hegel, Marx et Debord. De façon moins assumée, moi j'ai vu pas mal de Heidegger et de Nietzsche. Et puis ce primitivisme pagano-chrétien, mais aussi qui se réfère à la Grèce pré-socratique, donc des éléments aussi folkish comme tu l'as dit. Je crois que là, on a déjà posé pas mal de bases sur son cadre théorique. Et je crois que déjà en voyant ce cadre théorique, on comprend comment il va pouvoir mélanger des éléments réactionnaires, des éléments soi-disant anticapitalistes.
Oui, simplement peut-être pour finir sur ce cadre théorique, ce qu'on peut dire c'est que voilà, il élude ce qui chez Marx justement est antiraciste, c'est-à-dire notamment la conscience de Marx que l'esclavage est le pendant extra-européen du salariat, bon, évidemment même si c'est des choses très différentes, mais que clairement il dit vraiment que il ne peut pas y avoir d'émancipation des travailleurs salariés européens sans émancipation des esclaves. Donc il est déjà bien au-delà de Francis Cousin. Et également, on sait que dans le dernier chapitre du Capital, consacré à l'accumulation primitive, le colonialisme joue un rôle très important dans le capitalisme chez Marx. D'autre part, ce qu'on peut dire également, c'est que finalement, dans toute cette référence à l'être, à la vraie vie, à l'authenticité, Francis Cousin, même si soi-disant il se réclame de l'émancipation et de l'éros, de la liberté, etc., en réalité, n'en introduit pas moins une forme de normativité extrêmement forte. On le verra tout au long de son œuvre, c'est-à-dire que Francis Cousin dit « Oui, il faut être libre, il faut affirmer son être, etc. » Mais en fait, bon, il faut être un homme blanc hétérosexuel, germain, européen, qui fait ça, ça, ça et ça. Donc en fait, finalement, bon, c'est pas un projet très émancipateur, puisque c'est un projet extrêmement normatif. Je pense que là où il va plus loin que Debord, et où là où il se rapproche d'Heidegger, c'est que Debord effectivement opposait une vraie vie à la fausse vie marchande, donc ce qui était un thème, bon, effectivement un peu glissant, mais sauf que Debord ne mettait pas vraiment de contenu à cette vraie vie, du moins dans sa période de la société du spectacle. Ensuite, il a une dérive un petit peu dans les années 80, un peu plus identitaire, mais disons qu'au moins, au moment où vraiment Debord est le plus important, où il dit les choses les plus importantes dans la société du spectacle, il n'y a pas de contenu concret à cette vraie vie. Alors que Francis Cousin, lui, met un contenu concret et il dit, la vraie vie, c'est une vie hétérosexuelle, blanche, d'homme, avec une masculinité et une féminité extrêmement affirmées, donc ce qui n'est pas un projet émancipateur et qui est un projet extrêmement normatif.
Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a là une pensée qui n'est pas anticapitaliste, parce que si on a une pensée qui revendique cette espèce de tradition primordiale qui justement se base sur des structures patriarcales, racistes, xénophobes, on reproduit finalement les structures du capitalisme qui sont aussi patriarcales et racistes. C'est-à-dire que le patriarcat et le racisme sont des bases aussi structurantes et structurées par le capitalisme. Donc du coup, pour cette raison-là, on peut dire aussi que finalement, malgré lui, Francis Cousin, il va affirmer la nécessité d'une forme de capitalisme éternel, au sens où le capitalisme est intrinsèquement raciste, colonial et patriarcal. Mais ça, il s'en rend même pas compte, parce qu'il est incapable de voir le lien entre capitalisme, patriarcat et colonialisme. Donc ça, c'est aussi une raison pour dire qu'il n'est pas du tout anticapitaliste, malgré ce qu'il croit. Au contraire, il va valoriser les structures patriarcales et racistes du capitalisme existant pour les projeter dans une espèce d'unité fantasmée dans une société future. C'est aussi un argument pour dire qu'il n'est pas en fait vraiment anticapitaliste.
Non, t'as raison, je pense que c'est important de parler de ça parce que quand il parle finalement des questions qui va être l'objet de la deuxième partie de notre émission, d'immigration, quand il va parler des personnes racisées, quand il va parler des femmes, etc., c'est uniquement pour dire que finalement, ce sont des agents du capital. Alors qu'en réalité, eh ben en fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que le patriarcat, même s'il ne peut pas se réduire au capitalisme, même s'il est antérieur au capitalisme, il joue bien un rôle relativement fonctionnel pour le capitalisme. C'est-à-dire que, par exemple, Francis Cousin va dire « Oui, l'avortement, c'est un produit du capital. » Mais alors, ce qui est bizarre, c'est quand même que l'avortement arrive dans les 40 dernières années du capitalisme et que, au contraire, la société capitaliste est la société qui a le plus réprimé l'avortement. Comme l'a par exemple montré Federici, bon, même si on peut discuter sa chronologie du capitalisme, tout au long du 19e siècle et une partie du 20e siècle. Pour une raison très simple, c'est que la répression de l'avortement et de la contraception permet à l'État capitaliste d'assurer une production de chair à canon, de soldats, d'ouvriers, etc., la plus nombreuse possible. Et donc finalement, le capitalisme a intérêt à réprimer la libre maîtrise des femmes sur leur corps pour des objectifs de production de prolétaires, de soldats, de contribuables, etc. Et puis, d'autre part, sur la question du racisme, eh bien, on ne peut pas comprendre la dynamique du capitalisme sans comprendre la dynamique impérialiste, coloniale, raciste, qui présente un certain nombre d'avantages. Et donc, finalement, contre ce que dit Francis Cousin, en réalité, le capitalisme, c'est vraiment une société qui est intrinsèquement raciste et patriarcale. J'anticipe un petit peu mon argument sur lui quand il parle d'immigrationnisme, mais en réalité, c'est parce que la société capitaliste produit des inégalités à une échelle mondiale en subordonnant certains espaces, en les reléguant, etc., etc., au travers de la colonisation, du néocolonialisme ou de la division internationale du travail, donc basée notamment sur des très faibles salaires dans certains pays, que notamment ça pousse les gens à l'exil. Le capitalisme, finalement, en détruisant à travers sa logique raciste, contrairement à ce que dit Cousin, n'organise pas la migration pour faire baisser les salaires, ce qui a été parfois le cas dans l'histoire, mais qui n'est pas le cas depuis 40 ans, mais en réalité plutôt par sa logique raciste, impérialiste et inégalitaire, va pousser des populations dont les modes d'existence ont été détruits à l'exil et à venir dans les zones qui profitent de la surexploitation et de la destruction des périphéries capitalistes à travers la division internationale du travail pour venir en Europe. D'une certaine manière, Francis Cousin, en ne prenant pas en compte ce caractère raciste et colonial du capitalisme, ne comprend pas du tout l'immigration, ne comprend pas que des gens viennent en Europe et aux États-Unis parce que l'Europe et les États-Unis, en dominant le reste du monde, eh bien, effectivement, offre des niveaux de salaire plus élevés et l'Europe et les États-Unis, en dominant le reste du monde, détruisent les conditions de vie dans un certain nombre de pays qui forcent les populations à l'exil pour fuir la guerre, le dérèglement climatique, la misère, tous des phénomènes qui sont produits par le capitalisme européen et occidental. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on peut dire, c'est que Francis Cousin, finalement, avalise le capitalisme colonial, impérialiste et inégalitaire à l'échelle mondiale, et d'une certaine manière, finalement, en fait, se place du côté du capitalisme européen et pour l'exploitation, l'exil et la destruction des populations extra-européennes.
Mais ça, ce que tu décris, c'est justifié aussi par le fait que c'est presque un discours messianique qui fait du prolétaire européen blanc masculin un peu une figure christique qui va sauver toute l'humanité et qui va sauver aussi, par conséquent, les peuples qu'il qualifie d'extra-européens. Donc il y a presque une visée messianique qui fait que tout ce qui va menacer l'identité presque pure de ce prolétariat européen est mauvais en soi. Donc l'immigration va être mauvaise parce qu'elle va menacer l'homogénéité de ce prolétariat européen qui vient sauver l'humanité. Donc c'est un délire complet aussi sur cette visée messianique du prolétaire européen. Et du coup, il inverse complètement la situation. Il ne va pas penser la colonisation, il va penser l'immigration comme ce qui vient menacer la vocation révolutionnaire de ce sujet révolutionnaire européen. Donc voilà, il est incapable de penser ce que tu viens de dire parce que son point de départ, justement, il est là, quoi.
Oui, et d'ailleurs, ce fantasme de de l'unité qu'on retrouve dans le fantasme de l'unité des peuples primitifs, entre guillemets, germaniques, et ce fantasme de l'unité de la classe ouvrière, finalement, c'est un fantasme intrinsèquement réactionnaire, puisque le fantasme de l'unité, c'est souvent un fantasme un peu totalitaire, c'est-à-dire où chacun est à sa place et n'en bouge pas, comme on retrouve dans les sociétés de caste. Donc finalement, Francis Cousin, loin de se prévaloir d'une émancipation, promeut une société extrêmement rigide, où chacun doit être à sa place, chacun doit obéir à la communauté, ce qui rappelle finalement ce que pourtant lui critique, c'est-à-dire l'unitarisme prolétarien du Parti communiste français, c'est-à-dire où la classe ouvrière blanche est unie et ferme sa gueule et obéit aux ordres du Parti communiste ou alors de la communauté indo-germanique où tout le monde obéit et ferme sa gueule et obéit aux chefs, puisque évidemment c'est des sociétés à chefferie, hein, et pas des sociétés égalitaires.
Lui quand même il critique sans arrêt justement toutes ces chefferies. Le principe autoritaire, c'est vrai qu'il le critique systématiquement, et le principe hiérarchique, mais ce qu'on peut cibler aussi comme contradiction, c'est que lui a une posture extrêmement autoritaire, une posture presque de gourou messianique, et que ça contredit totalement son anti-autoritarisme de principe. Il semble presque se sentir investi d'une mission historique. Voilà, il la porte aussi en tant que théoricien qui est complètement coupé des luttes. Hein. C'est quelqu'un qui n'est plus dans les luttes. Donc cette dimension autoritaire, elle est présente chez lui. Elle va contredire son anti-autoritarisme théorique constamment. C'est quelqu'un qui est dans beaucoup de contradictions. Et celle-ci, elle est particulièrement visible.
Et en plus, il se dit anti-autoritaire, mais dans la mesure où son modèle, c'est les sociétés germaniques, donc c'est des sociétés où, en fait, plus de la moitié de la population est dans une position subordonnée. Les femmes, les enfants, les esclaves éventuels, prisonniers de guerre, etc. Voilà, il est anti-autoritaire dans la mesure où l'Athènes du 5e siècle est démocratique, c'est-à-dire en excluant la majorité de la population. On peut quand même contester effectivement ce caractère anti-autoritaire, ou disons le nuancer. Après, peut-être qu'il faut arriver, pour finir cette première partie, sur le cadre théorique, sur sa critique de l'indistinction. On en a déjà un petit peu parlé, mais je pense que c'est important. Voilà, on va donc lire un passage de son livre sur la société de l'indistinction.
Bah oui, il va écrire Critique de la société de l'indistinction. En tout cas, le groupe L'International va écrire ce texte, et on sait que Francis Cousin, au moins, a participé à ça. Et en fait, l'indistinction, ça fait d'abord référence à une idée hegélienne et une idée marxienne. Donc il propose deux citations. D'abord, la science de la logique de Hegel, la réflexion riche en esprit consiste dans l'acte de distinction, de saisie et d'énonciation de la contradiction. Donc ça, c'est tout simplement l'idée d'un mouvement dialectique qui suppose à la fois la distinction pour l'aufhebung, justement, pour la synthèse. Et ensuite, sa référence, surtout, ça va être Marx, les manuscrits de 44. L'argent apparaît comme la puissance de perversion de l'individu, c'est Marx qui dit ça. Il transforme la fidélité en infidélité, l'amour en haine, la haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu, le valet en maître, le maître en valet, le crétinisme en intelligence, l'intelligence en crétinisme. Comme l'argent, qui est le concept existant et agissant de la valeur, confond et échange toutes choses, il en est l'indifférenciation et la permutation universelle. Il est le monde à l'envers, l'indistinction et l'inversion de toutes les qualités naturelles et humaines. Donc Marx, dans ce passage, il se référait aussi à Shakespeare. Et l'idée, c'est que, effectivement, les abstractions que sont les catégories bases du capitalisme, on peut dire, c'est vrai, d'un certain point de vue, qu'elles sont indifférenciées. Voilà, le travail abstrait, par exemple, c'est une abstraction qui va oblitérer toute la multiplicité concrète des travaux concrets, donc toute cette diversité. Et donc, Francis Cousin, il va aussi s'appuyer sur cette critique des abstractions marchandes pour dire que, justement, le mouvement capitaliste, c'est aussi un mouvement d'indistinction. Mais le problème, c'est qu'il va lui-même faire une confusion, alors qu'il prétend faire des distinctions, entre cette notion marxienne, par exemple, du travail abstrait, et, on va dire, une dynamique, par exemple, d'émancipation qui est présente dans la société capitaliste, des dynamiques féministes et antiracistes, par exemple, que lui va qualifier aussi d'indistinguante, d'indifférenciante. Donc il va associer l'indistinction marchande au mouvement qu'il qualifie antidiscriminationniste, donc féminisme antiraciste. Et donc du coup, pour lui, critiquer l'indistinction, c'est aussi critiquer, par exemple, le fait qu'on ne distingue plus vraiment les femmes et les hommes, les blancs et les noirs, etc. Et pour lui, cette logique antiraciste et féministe, elle s'inscrirait parfaitement dans la société libérale et capitaliste, qui elle-même serait indifférenciante. Et il y a une confusion vraiment totale qui est faite entre une critique des abstractions marchandes et, d'un autre côté, des mouvements d'émancipation, féministes et antiracistes, qui n'ont pas forcément de relation avec cette critique des abstractions marchandes. En tout cas, chez Francis Cousin, le lien entre les deux n'est jamais fait, mais on présuppose sans arrêt que ça va de soi, qu'il y a une relation entre les deux. Donc il faut réfléchir, je pense, à cette dimension-là. Et du coup, la critique chez Francis Cousin de l'indistinction, elle va servir finalement une pensée plutôt masculiniste et finalement raciste, comme on va le voir peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Et il va falloir essayer de débrouiller un petit peu tout ça, de voir en quoi chez Francis Cousin, il y a un contresens à associer cette indistinction des catégories abstraites marchandes avec ce qu'il appelle l'antidiscriminationnisme, soi-disant des mouvements d'émancipation féministe et antiraciste.
Oui, ça je pense que c'est important de finir cette première partie là-dessus, parce que finalement, ce qu'on peut dire, c'est que sa critique de l'indistinction, elle est quand même un peu contradictoire, puisque lui qui exhorte une classe ouvrière blanche européenne unie, c'est déjà une forme d'indistinction, puisque du coup, ça veut dire une indistinction par rapport au métier, ça veut dire une indistinction par rapport aux nations, ça veut dire une indistinction par rapport à la région, ça veut dire une indistinction par rapport à un certain nombre de facteurs. Donc, c'est un peu bizarre, finalement, de promouvoir un sujet qui repose lui-même sur une distinction massive, parce que la classe ouvrière européenne peut dire combien de différences entre un prolétaire d'usine en Tchécoslovaquie et un ouvrier agricole limousin en France. Donc déjà, je pense qu'il y a une critique qui est en fait assez partielle de l'indistinction. Mais je pense que finalement, là n'est pas l'essentiel, parce que sa critique de l'indistinction, c'est une vieille ancienne de l'extrême droite, qui en réalité traduit une haine de l'égalité. Pour lui, il s'oppose à l'égalité. Par exemple, il ne veut pas que les prolétaires d'Algérie et les prolétaires de France soient égaux. Et pour justifier ça, il se base sur l'idée « non, mais il ne faut pas qu'il y ait une indifférenciation, une indistinction ». Et donc finalement, Francis Cousin donc, à la fois s'oppose à l'égalité sous prétexte que ce serait intrinsèquement capitaliste, alors que la société capitaliste est une société qui produit massivement de l'inégalité. Et d'autre part, en fait, il est sur une posture identitaire très figée. C'est-à-dire que globalement, voilà, comme l'Église catholique, comme le fascisme, comme la pensée réactionnaire, une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, tout est justifié de manière extrêmement naturaliste, tout comme, par exemple, au XIXe siècle, on justifiait les différences de classe en raison de la nature. Donc finalement, Francis Cousin reprend tout l'argumentaire réactionnaire du XIXe siècle, qui avait servi aussi à l'époque à dire que non, mais il fallait quand même pas égaliser les prolétaires et les capitalistes, parce que sinon ça allait produire une forme voilà, d'indifférenciation, alors qu'en réalité il y avait des différences naturelles, l'aristocratie et la bourgeoisie étant supérieures naturellement aux prolétaires. Donc finalement, bon, l'argumentaire de Francis Cousin voilà, est encore une fois contradictoire à ce sujet.
Ouais, d'ailleurs, de façon vraiment aberrante, il va détourner justement le propos de Marx à propos de l'inversion par l'argent, en disant du coup, dans la société marchande, il n'y a plus de blanc ni de noir, de femmes ni d'hommes, etc. C'est-à-dire qu'il va essentialiser aussi, de façon raciste et sexiste, des genres, des races, etc. Donc du coup, il y a aussi cette idée de préserver des essences comme ça identitaires, et donc on retrouve une pensée masculiniste et aussi une pensée qui fait penser à Alain de Benoist et son ethno-différentialisme. Donc vraiment des pensées d'extrême droite. Donc là, on voit à quel point il est capable d'orienter la critique, par exemple, des abstractions chez Marx vers une critique complètement identitaire d'extrême droite, en fait, qui n'a rien à voir avec Marx. Là, il y a un glissement conceptuel totalement non rigoureux et une incapacité, là pour le coup, à faire des distinctions conceptuelles du point de vue de Francis Cousin. Et surtout, d'un autre côté, il y a aussi cette idée que l'indistinction, ça va s'opposer à la distinction de la même manière où l'insituation se distingue de la situation. Donc il va aussi avoir une interprétation très idéaliste finalement et très heideggerienne de la situation de Bordienne en la pensant une fois de plus comme enracinement identitaire. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir qu'il va aussi produire un glissement conceptuel à partir de Debord, cette fois-ci, de la notion de situation. Donc pour lui, l'indistinction in situ. Donc voilà, cette pensée de l'enracinement, elle est constante. Voilà, comme on l'a dit, liée à ce jargon de l'authenticité. Et ce qu'on peut voir, c'est aussi, voilà, comme je le disais, une totale absence de distinction conceptuelle, là, pour le coup, de la part de Francis Cousin, donc qui produit sans cesse des contradictions performatives. Hein. C'est quelqu'un qui est capitaliste en même temps qu'il se dit anticapitaliste, qui est dans la plus grande confusion en même temps qu'il écrit contre l'indistinction, et qui est dans une posture autoritaire en même temps qu'il se dit anti-autoritaire. Donc voilà, toutes ces contradictions contradictions performatives, elles font aussi le jeu de cette confusion qu'on essaye de débrouiller ici et de ce danger que représente la pensée de Francis Cousin.
Ce sur quoi on peut finir, et je pense que c'est important, c'est que Alain Beer, dans son ouvrage donc L'actualité d'un archaïsme, il essaye de théoriser, disons, les fondements idéologiques de la pensée d'extrême droite. Et son premier fondement de cette pensée d'extrême droite, c'est la fétichisation d'identité collective, comme le fait Francis Cousin, c'est-à-dire la fétichisation de la classe ouvrière européenne masculine, des germains, etc., que lui, il transhistoricise et il naturalise en parlant de, voilà, d'essence, en faisant un sujet métaphysique qui existerait depuis la nuit des temps, alors qu'en réalité, ces identités de classe ouvrière blanche, de blancs, d'hommes, de femmes, d'européens, de non-européens, etc., ce sont des identités qui ont été socialement et historiquement construites et qui sont donc dépassables et qui ont été constituées par des systèmes de domination, c'est-à-dire la distinction entre hommes et femmes comme catégorie sociale, c'est-à-dire au-delà des différences anatomiques dont on pourrait faire aussi peu de cas que la couleur des cheveux ou le nombre de poils sous les aisselles, et bien donc ces identités sont elles-mêmes socialement et historiquement construite par un système de domination patriarcale. Idem pour les identités raciales qui ont été constituées avec principalement la modernité capitaliste, l'esclavage, etc., etc. Auparavant, ce n'était pas forcément des distinctions significatives. Donc finalement, quand Cousin critique l'indistinction, en réalité, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il s'agit là de l'abolition de distinctions qui ont été créées historiquement par des systèmes de domination, et que finalement, vouloir abolir ces distinctions, ces identités, en fait, relève d'un projet émancipateur. Il ne s'agit pas, dans cette abolition des distinctions hiérarchiques, socialement et historiquement construites par des systèmes de domination, d'en arriver à ce que tout le monde se ressemble, ce que tout le monde soit identique. Ce que d'ailleurs Francis Cousin, dans sa mystique des chasseurs-cueilleurs, prône d'ailleurs. C'est un peu contradictoire d'ailleurs. Toute sa pensée là-dessus, c'est qu'il prône une espèce d'unité et d'indifférenciation d'une part, et d'un autre côté, il critique la différenciation par des systèmes d'oppression patriarcale et raciste d'autre part. Encore une contradiction. Mais voilà, finalement, rien de plus logique que de vouloir abolir ces distinctions qui ont été créés par des systèmes de domination et qui justifient des systèmes de domination. Et Francis Cousin tombe dans un travers caractéristique de la métaphysique et de la pensée d'extrême droite, c'est-à-dire qu'il considère comme naturel, transhistorique, positif, des choses qui en réalité sont historiquement construites et négatives, et donc à abolir pour une réelle émancipation des êtres humains. Alors voilà, je pense que c'est finalement une bonne conclusion de son cadre théorique. On va approfondir toutes ces questions dans une deuxième partie où on verra les différents thèmes de la pensée de Francis Cousin, donc son obsession à propos de l'immigration, son racisme, son mépris de classe envers les lumpen prolétaires, entre guillemets, son antisémitisme, son racisme anti-musulman, son identitarisme, sa défense du patriarcat et son conspirationnisme. Tandem.
Oui. C'est la rue qui te pense, celle qui a mis la charrue à voler le peu. Moi je vais les brûler les étapes, maintenant regarde mon état. Un putain de rap sur les bords du drame. N'est pas trop tard, que Dieu préserve ma fée d'avoir un fils trop barre. J'ai trop nagé dans la merde, mâché de la pierre. Marché sur mes pas, c'est tiré sur un frère. Camère indomptable, autre nique ta mère. Authentique à tes dieux, trop d'amertume amère envers mon bitume sur un but qui est Dieu. J'ai la haine envers les jeux, j'te le dis, criminel ou pas, 16 ans, on a besoin d'un peu de chance dans la vie, je voulais s'y faire. Vécu de poissard, c'est décidé, comment se sentir là quand on sort l'arme de son tiroir. Ce soir, c'est le roi qui libère son château, je veux pas être la parole d'un dealer avec une balle dans le dos. Dites-le moi si j'ai des fans, tu sais pas moi, je suis ce parfum de scandale que tu respires quand tu tombes dans les vapes. Car où j'habite, ça pleut du junkie pour s'enrichir, mais sans rire, moi j'ai du mal à m'en sortir. Des coups du sort et des choses sordides, des keufs qui nous sortent du lit, et vu qu'on est des bonhommes quand on assure, faut qu'on sorte du pif. Et ouais mon petit, Toi qui vis chez les remparts, sache que c'est ta mère qui dort pas quand tu rentres pas. T'as pas encore compris qu'on est tous les mêmes face au magistrat. C'est ton oseille, les coups de magie de ton baveux que tu trouves magistral. Perle lacrymale pour noyer son cafard ultra vénère. Mon âme s'envole pour être vendue aux enfers. Trop de prisons fermes, de chrysanthèmes sur les tombes, de crises internes chez les hommes. Enfin bref, trop de prises de tête. Les nouvelles sont mauvaises comme à l'accoutumée. Dans mon ghetto, si tu rentres 4, tu te fais fumer. On en devient cinglé ou parano. Les decks ils veulent nous épingler. Moi je laisse en venir, les yeux fermés. T'as du sang de la vête ou quoi, tu deviens tout pâle. Car sur repère, beaucoup ont payé cher de leurs actes en arrachant des sacs avec les poteaux. C'est par des mots grossiers qu'on s'aime, qu'on s'estime, qu'on cède et qu'on est festif. Alors on fait ce qu'il faut pour se mettre en place. À qui la faute si Carlito fit dans l'impasse. De spi, le passé nous rattrape et nous rate pas. Souvent il est trop tard quand t'entends les gyros et les dérapages. Que des attailles dans mon patelin, que des rapaces qui veulent de l'or chez eux. Mais sans compter devant la porte, on veut le Porsche Cayenne. Le KS Rimpla a craqué, j'espère avoir la bonne inspi pour ne pas aller braquer.
Mais t'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu.
T'inquiète ma gueule, je ne sortirai pas sans mon feu. De quoi je me plains, des frères grandissent dans la guerre civile. Leurs nuits sont déchirées par des bruits de missiles. Ça fait la guerre autant qu'avec des pierres. Des bombes humaines explosent dans des lieux de prière. Ma banlieue elle est en colère et ne trouve la paix que dans un bif. Un joint d'air puis dans un spliff. Monsieur l'agent, si tu me coinces avec un bout d'aria, ça ira si ce n'est que pour une vérif au commissariat. Patrimoine du ghetto, la voix du king dans tes machines. Voici nos vies quand nos rêves nous entraînent dans la folie.
Si t'as peur du ghetto, n'écoute pas mon son. Entre les meurtres, les séismes judiciaires et les saisons qui passent, rien de bon qu'on représente, fils.
La route te guette, mec, les flics aussi.
Si t'as peur du ghetto, n'écoute pas mon son. Entre les meurtres, les séismes judiciaires et les saisons qui passent, rien de bon qu'on représente, fils.
La route te guette, mec, les flics aussi.
On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies.
Ok. Pour ma part, j'identifie mes défaillances selon mon moral. Sous mes tacs de spliff et l'orage, que je gratte le smic chez Sephora. Je me mets en mode défouraillage. Gars, je me décourage pas, sache que je n'envisage en aucun cas de finir à la halette. Quel calme, alors on reste calme en espérant devenir quelqu'un de stable. Conscient qu'on n'est qu'un grain de sable, on se prive de tout confort, on roule en fiesta. On sait qu'on ne ressuscitera pas le Christ par nos méthodes bestiales, alors on tente de subsister, on fait avec ce qu'on a, on veut juste exister. On t'aura averti et c'est qu'un aperçu. En bas chez moi, ces belles ébutes qui guident les pas des fils de pute. Avant qu'on s'entraide, on s'attire des ennuis, histoire d'être bien sûr qu'on supporte. On submerge nos problèmes dans l'alcool fort, un rêve passé par la grande porte. Bien conscient d'être, pourquoi on s'entête par des tentatives qui ne cessent de mener nos frères vers le QHS. En principe, si t'insistes, il se peut que cette pute écarte la chatte, négro. Mais si jamais tu t'acharnes, il se peut qu'il te relâche pas. Mémoire d'un poisseux qui risque sa vie pour un classeux. Juste un pauvre type qui a pas grandi dans le fond, toujours outillé dans le froc. M'parle pas d'intégrité, mon pote, la vérité. Il suit pour un peu d'or noir, il nous divise pour mieux régner. C'est vrai, saut de quoi on se plaint. Même si ces bâtards ne portent pas plein, dis-toi qu'on est loin du vacarme d'une bombe larguée par un intégriste chrétien.
Hello, my name is George Bush. I like war.
Alors on se tape dans un rap game au débit. Et je dédie celle-ci à mon vécu de poissard pour dire que c'est juste une passade. Instinctif, on combat son cafard en faisant gaffe à pas se faire lyncher. La vie de Pacha dans les films, tu l'obtiens, c'est un mec fâché. Mon cul, pour nos affaires, t'occupes. On est trop pressé d'être là, on t'éclatera la gueule si tu nous aimes pas. 24 piges, et tu crois que j'ai encore du temps à perdre devant ceux qui nous cherchent la merde. Moi je t'avoue que je préfère te la mettre. Tout à stématome rectal, tout droit sorti d'auberge. Tu sais que chez nous on t'emmerde et qu'on rêve tous d'un compte auberge. Mute, j'en ai la certitude qu'à force on finira tous par être fort. Dans cette quête vers la fortune, moi la poisse j'y crois pas. Ton malheur je m'en bats. Je suis persuadé que chaque acte bon ou mauvais a son résultat. Alors il est temps pour nous de passer à table et de faire notre quota. Entre musique et crime j'ai fait un choix. Les rimes contre le mandat dépôt. Sur le visage frêle on peut lire les rages d'hommes avertis. Cette incompréhensible amertume qui nous rend d'humeur si libertine. Je vide mon sac, rien à foutre. Mais tu sais que le monde est sale chérie. Dans mon patelin d'âme aguerrie ça va pas terrible. En bas de chez moi on s'en bat tes armates. T'es loin on s'en tape. Faut que je reste au top de ma forme pour tes prangines qui pleurent leur talma. Je m'en bats les couilles de la mort du pont de l'Alma. Vas-y Salmo, me sort au rêve avant de finir à la côte au rep. Mais que me reste-t-il des principes qu'on m'a inculqués étant jeune. Ils se sont bafoués après les bacs et les jurés. Alors je me détermine entre les cages et les fachos. Chez moi le track est mis à go. Chaque jour qui s'écoule est un pas de plus vers un braco. Smalette, j'y remédie à coups de plaque au plâtre. Déjà que j'ai pas trop de chat, les histoires d'arcotage les laisse au sale placo. Serais-tu prêt à te rendre compte des sacrifices qu'on serait prêt à faire ou quoi? Surtout pas taper de la prison ferme pour tous ces faux frères. Faut que je reparte à zéro. Je rêve d'être un héros, mais j'ai toujours ce putain de vécu de poissard qui me colle à la peau.
T'as peur du ghetto, n'écoute pas mon son. Entre les meurtres, les séismes judiciaires et les saisons qui passent, c'est rien de bon qu'on représente, fils.
Ma route guette, mec, les flics aussi.
J'ai la peur du ghetto, n'écoute pas mon son. Entre les meurtres, les séismes, j'ai des sierres. Et les saisons qui passent, c'est rien de bon qu'on représente, fils.
Ma route guette, mec, les flics aussi. Ma route guette, mec. Ma route guette, mec. Ma route guette, mec, les flics aussi.